18h, 20h, c'est Vincent sur Radio Scoop.
Merci de refermer ce jeudi 12 janvier 2023 avec nous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Toute l'équipe du 18h, 20h, Nico et là, Sébastien Aglet de la rédac aussi. Et puis surtout, on n'est pas tout seul. On a le bonheur, on a le plaisir de recevoir Skip the Use. Skip the Use, invité du 18h-20h.
Wow. Oui.
Matt Bastard, le chanteur de Skip the Use est là. Comment ça va, Matt?
Très bien, en pleine forme.
Très très bien. Ouais. Tout roule. Heureux d'être avec nous.
Bah oui, parce que j'adore être sur ce coup.
Moi, je suis ravi de te recevoir. Vraiment, on m'a annoncé ça il y a une semaine, j'étais comme un dingue. Je suis Skip the Use depuis le début, donc je suis très très content. Donc reste là, t'es venu accompagné par Enzo, c'est ça? Bonsoir Enzo.
Exactement, salut.
Bienvenue. Merci. Enzo, t'es musicien dans Skip the Use.
Ouais,
d'accord.
Batteur.
Batteur, ok. Il est pas venu avec sa batterie, ça prenait trop de place.
si,
mais il est quand même venu, ça nous fait plaisir en tout cas de vous recevoir pour parler du Human Disorder. C'est votre tout nouvel album, c'est le 5e album studio, je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Voilà.
Tout est bon.
Il y a eu 6 albums, un album live, 5 albums studio. On va commencer cette interview d'abord par une petite présentation à trous. Parce que tous les auditeurs, toutes les auditrices de Radioscoop ne vous connaissent pas forcément Skip the Use. Donc je commence une phrase, à vous de la compléter. D'accord?
Ok.
Skip the Use est un groupe de...
est un groupe de...
De musette.
De rock, mais pas que.
De rock, mais pas que. On aura l'occasion d'en reparler. Je sais que ça t'énerve qu'on classe la musique
non,
comme
non,
ça.
Non.
On en reparlera tout à l'heure, Matt.
On y reviendra.
Donc, vous chantez en anglais, créé en. En quelle année?
À 2007.
2007. Et originaire de.
Lille.
De Lille?
Ouais.
Alors, sur Wikipédia, c'est marqué autre chose.
On a bien fait de demander.
Ronchin.
Ronchin, c'est juste à côté de Lille.
Ouais, mais ouais. C'est pas juste, c'est que moi, Ronchin.
D'accord.
Voilà, oui, c'est pas tout le groupe.
C'est,
hein,
c'est
ouais, ce
voilà,
groupe.
C'est pas, c'est pas...
Donc, c'est toi qui as tapé ta fiche Wikipédia.
Non, mais ça doit être quelqu'un de ma famille. C'est ma mère, je pense.
Justement, comment vous vous êtes rencontrés alors? Au tout début.
Bah, Lille, c'est un village. Hein, ouais. Je veux dire, quand on fait de la musique à Lille, on fait de la musique. Avant de faire Skip, on faisait de la musique dans un autre projet. Et avant ça, on avait encore d'autres projets. Depuis qu'on est petit, on fait des groupes. Donc, on finit forcément par se croiser. Puis, on fait du rock, du metal, du punk. On venait de cette scène-là. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait faire cette musique-là et l'écouter à Lille. Donc, on s'est forcément croisés dans ces endroits-là. Et puis, voilà.
Vous êtes séparés une première fois, c'est ça? C'était en quoi, 2016?
On a fait un break avec le groupe.
Un break, comme dans les couples.
Comme dans Friends.
C'est ça.
Non, on a. Moi, je suis parti aux États-Unis pour travailler et puis voilà, j'ai pris du temps un peu pour faire tout ce que je peux pas faire quand on fait Skip. Moi et Yann aussi d'ailleurs hein, et tous les autres. Le truc, c'est que Skip, ça nous prend énormément de temps. On fait beaucoup de choses autour du projet. Donc du coup, on avait envie de développer d'autres trucs et voilà, on s'est dit bah on finit la tournée et puis on prend vraiment du temps de faire tout ce qu'on met sur le côté et puis une fois qu'on l'avait fait, bah on est reparti.
Mais ça a pas duré très très longtemps, je crois, c'est 2 ans, c'est ça?
Ouais, bah en fait, moi j'avais envie vraiment de me former un métier que j'avais envie de faire.
Pâtissier.
Exactement, bah c'est presque ça, non? Mais disons que je voulais vraiment approfondir le métier de producteur. Et donc pour ça, il fallait que je prenne vraiment le temps, que j'aille travailler avec des maîtres que je respectais et auprès desquels j'ai appris plein de choses. Et puis voilà, et tant que j'étais en tournée, c'était très compliqué. J'avais vraiment envie d'avoir cette corde-là à mon arc. Et puis bah, pour l'avoir, il fallait que je break un peu, tu vois, pour pouvoir m'y consacrer.
Alors ouais. Le groupe a un petit peu changé en plus. Entre-temps, hein, il y a eu de nouveaux musiciens, si je dis pas de bêtises, entre 2016 et 2018.
Ouais, ouais, bah...
Tadam.
C'est la musique du rideau, tu sais, dans Bataille Fontaine. Quand le rideau,
ah oui, il y a que la vérité qui compte. Vous avez un immense fan.
Ah, je suis un grand fan.
Voilà. Sébastien Aglet de la rédaction.
J'ai reconnu direct.
du coup, je sais plus. Ouais, on a... En fait, avec... Yann, quand on a créé le groupe là en 2007, on a toujours été que tous les deux, tu vois, à produire, à faire les morceaux et c'était très cool. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, on avait envie peut-être d'ouvrir ça et d'avoir vraiment des personnes qui sont aussi producteurs avec lesquelles on pouvait aussi aller un peu plus loin et qui pouvaient nous challenger nous dans notre musique. Et puis Enzo, bon, nous, on le connaît depuis qu'il est tout petit parce qu'on travaillait déjà avec son papa quand on était petit. Et puis voilà, on a commencé à travailler ensemble sur mon album solo. Et puis, puis on s'est rendu compte que cet apport de prod, de cette vision était vachement intéressante pour le projet. Et puis on est parlé à Yann et puis voilà.
Et toi Enzo, pour entrer dans Skip the Use, l'accueil a été bon, ça s'est bien passé ou c'est un peu compliqué quand même de rentrer dans un projet qui a déjà existé avant?
Ah ouais,
c'est...
d'accord.
Ouais, c'est... Ah ouais, oh là là.
Alors je crois que Yann faisait partie. Enzo faisait partie de Skip the Use.
Non, mais vu que ça a commencé, en fait, ça a commencé progressivement. Je suis pas arrivé dans Skip the Use tout de suite. C'était d'abord le projet de Matt en solo. Donc j'avais une place qui était la mienne et j'y restais. C'était quelque chose de différent, en fait. Donc quand on a commencé à travailler, c'était pas Skip the Use, donc c'était il y a eu une progression jusqu'à Skip the Use et puis Skip the Use c'était la continuité en fait du projet solo, donc j'ai pas senti le truc de pression d'un truc qui existait déjà avant. Non.
Moi j'ai eu la pression cool. De ses parents par contre.
Ouais, hein, ouais. Ah, moi aussi.
Tous les jours.
Moi aussi des tiens.
Des miens.
Human Disorder, c'est donc le cinquième album de Skip the Use. À l'intérieur on retrouve ce tube. Si je dis que cet album, c'est la BO des 2 ans de crise sanitaire avec le confinement, etc., je me trompe ou pas du tout?
Non, pas que la crise sanitaire, hein. Ça serait un peu le réduire, mais c'est vrai que bah, on l'a fait pendant cette période-là, mais voilà, ça s'étend un peu. Disons que c'est un peu les disques, c'est un peu des photos du monde au moment où tu les fais. Donc c'est sûr que la crise sanitaire, c'était quelque chose d'extraordinaire, en dehors de l'ordinaire. On n'avait jamais connu ça, la planète entière qui est secouée. Donc forcément, ça... Disons que cette situation nous a forcés à nous recentrer sur certaines émotions qu'on met un peu de côté. Et du coup, quand tu te retrouves face à ces émotions que tu mets un peu de côté, bah, ça devient intéressant parce que tu vas puiser au fond de toi des choses que tu mets peut-être un peu de côté. C'est le rapport... on vient d'écouter The One Two, j'ai fait avec ma femme. Le rapport que tu as aussi à la famille, tu te retrouves enfermé avec des gens, surtout nous, en tant que musiciens, on est tout le temps sur la route, on n'est jamais chez nous. Le rapport avec tes gamins que tu vois tous les jours, avec tes potes que tu vois plus, ton métier que tu peux faire, mais alors il faut trouver des solutions, alors tu fais avec les réseaux sociaux, et alors que tu trouves que c'est de la merde, mais tu le fais quand même, c'est le truc que tu as. Tu vois, et ça remet en question tout ton équilibre, en fait. Et du coup... c'est relou et d'un autre côté c'est hyper intéressant parce que ça permet de te challenger et de repenser les choses, de repenser des choses, des acquis, des choses que tu pensais acquises et de les voir différemment. Donc tout ça mis dans une sorte de grosse cocotte minute, ça fait plein de bonnes raisons de faire un disque, en fait, voilà.
Et un disque où il y a des chansons en français, il y en a 4, c'est un peu le hasard qui fait qu'aujourd'hui il y a des chansons en français dans cet album, alors que d'habitude c'est souvent en anglais, enfin c'est tout le temps en anglais.
Ouais, ben nous on s'est toujours servi de la langue comme étant un chemin plutôt qu'une destination. On n'en a jamais rien eu à foutre de ce qu'on essaye d'imposer au projet dans notre pays, avec des lois, des machins, si tu fais pas ça, tu fais pas ci. On a toujours été soutenus par des médias comme Scoop, je dois le dire, qui nous diffusent depuis le départ, donc ça n'a pas changé. Je veux dire, quand je chante en anglais, ils nous diffusent, quand je chante en français, ils nous diffusent. Je pense qu'on a fait ces 4 chansons en français parce qu'on en était fiers et qu'on était heureux. Et peut-être qu'avant, tout simplement, on était moins bons là-dedans.
Le confinement, il a changé la façon de faire de la musique pour vous. Est-ce que tu trouves que Skip the Use a changé depuis 2019?
Ah bah plus heureusement. Enfin, je veux dire, nous, on a un groupe résolument contemporain. On évolue tout le temps, on se remet en question tout le temps. Donc heureusement qu'on.
Ouais, mais là, c'est x1000. Non, mais avec la pause, ce que je veux dire, c'est que le confinement, alors certes, on s'est retrouvé enfermé, etc., mais tu l'as dit, ça nous a permis de réfléchir à plein de choses. Moi, j'ai l'impression d'avoir changé entre 2019 et 2022. J'ai l'impression que le confinement m'a fait changer x1000. Ouais.
C'est ce que tu disais peut-être avec les réseaux sociaux. Ton approche avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression, tu dis, il y a eu un cap de franchi quand même. J'ai l'impression qu'avant, tu étais moins connecté et que là, ça t'a remis en question tout ça.
J'étais connecté d'une autre manière, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'utilise les réseaux sociaux et je vais les utiliser de plus en plus pour pouvoir partager mes idées. Je pense que ce qui a changé, c'est que je pense qu'il faut faire partie de la machine pour la transformer. Et c'est ce que nous, on s'est toujours dit avec le groupe. Donc en fait, là, c'est ce que, pour avoir ta question, ce qui est, c'est pas ça, c'est que quand j'étais petit et que j'écoutais du punk, du rock et tout ça, je gueulais parce que je comprenais pas que chez Michel Drucker, il n'y avait pas Nirvana, tu vois. Je disais, mais tous mes potes, ils écoutent ça. Pourquoi j'ai toujours Jean-Jacques Goldman? Alors que j'adore Jean-Jacques Goldman, je me disais, mais il y a d'autres trucs. Oui. Pourquoi on m'oblige tout le temps à voir ça? Et quand nous, avec le groupe, on a commencé à faire des télés, bah, je me suis dit, bah, c'est cool, on fait du rock à la télé, même si ceux qui sont peut-être plus durs que nous disent qu'on n'est pas encore assez durs. Mais voilà, on propose une alternative, tu vois. Et avec les réseaux sociaux, dans un premier temps, c'est clair que j'ai été en mode, c'est quoi ce truc? Moi, j'ai besoin de parler aux gens en vrai. Je trouve ça, puis ce qui me tue, c'est les trends de allez, on fait tout ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut faire. Moi, quand on me dit c'est ça qu'il faut faire, je deviens fou. Et je me dis, et maintenant, c'est sûr que je me dis, bah, la trend, moi, je vais créer une trend où il n'y a pas de trend, où on dit ce qu'on veut, où on utilise vraiment le réseau social pour évoluer, pour apprendre des choses, pour se remettre en question, pour se challenger, pour parler à des gens qui vont nous apprendre des trucs et pour pouvoir dire des fois dans des posts « Ah, je me suis trompé », tu vois, des choses comme ça. Et pour faire ça, eh bien, il faut une grosse communauté, il faut en faire partie. Et je pense que ça, c'est plus intelligent. Donc, je ne dirais pas que j'ai changé, je dirais plutôt que j'ai mûri, mais je fais la même chose qu'avant, juste avec des choses différentes.
Mais je crois que tu regrettes quand même qu'il y ait pas mal d'artistes aujourd'hui qui sont connus surtout parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, alors qu'il y en a d'autres qui pourraient percer mais ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, donc ils ne sont pas sur les festivals notamment.
Je trouve que résumer un artiste à son nombre d'abonnés, c'est assez réducteur.
Des fois, il manque de lumière simplement, en fait. Voilà.
Bah parce que de toute façon, si c'était ça, nous, on ne ferait jamais de concert. On est un des groupes qui tourne le plus, qui joue le plus, et on est un des groupes avec le plus faible nombre d'abonnés. Donc, parce qu'on vient d'un moment de la musique qui ne fonctionnait pas comme ça. Maintenant, faut pas non plus être en dehors de son époque. On essaye de l'être dans la production, on essaye de l'être dans notre vision du monde et de notre pays ou de la vie. Mais d'un autre côté, il ne faut pas perdre ce contact à la réalité. Souvent, nous, quand on fait des festivals, il y a beaucoup de groupes qui viennent nous voir sur le côté de scène et qui nous demandent j'aime bien quand vous faites ceci avec le public et puis vous faites ceci. Ouais, mais ça, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on fait ça. Maintenant, nous, des fois, on va leur dire, et vous, quand vous faites un montage vidéo, ça défonce et tout ça. Bah, voilà, donc on apprend tous les uns des autres. Et je pense que c'est ça. Et je pense que il faut être conscient des avantages et des inconvénients de chaque chose.
En parlant du public, les tournées reprennent dans 6 jours. Vous serez de passage d'ailleurs dans la région avec une date le 26 janvier à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand, le 28 au Radiant Bellevue, ici à Caluire, juste à côté de Lyon. Skip the You sur scène, moi je l'ai déjà vu, mais je peux vous dire que c'est immense. Un petit peu la même question qu'il y a de cela quelques minutes. Est-ce que cette tournée sera encore plus ouf que celle avant le confinement, avant le Covid, est-ce que la frustration va ressortir sur scène? Parce qu'on a tous été frustrés, nous, tant que public, alors j'imagine même pas en tant qu'artiste.
Ah ouais, non, c'est clair. Nous, là, on se marre, on s'éclate. Et puis en plus, y a un peu ce côté, comme on fait du rock, on est en France, tu vois, c'était un peu compliqué dernièrement, tu vois, pour le rock'n'roll et tout ça dans notre pays. Donc on est parti dans cette tournée en se disant, on se fait plaisir, on y va à 3000% et on verra. Et en fait, pratiquement toutes les dates sont complètes, les gens sont là, les gens sont fous. Comme tu dis, les gens ont envie qu'il se passe quelque chose. Donc ouais, la tournée, elle est physique, mais elle fait vraiment du bien. Enfin nous, quand on rentre dans le bus après le show, on a vraiment l'impression de vivre, d'être en vie, tu vois, d'être vivant. Et c'est mortel.
Et c'est des concerts un peu particuliers. Enfin, le public fait partie intégrante du spectacle, si j'ai bien compris. Il y a une expérience particulière pour ceux qui vont venir voir le groupe.
Ah ouais, c'est le concert de Lyon, c'est pas le concert de Saint-Etienne, qui sera pas le concert de Lille. C'est voilà, on adapte le show en fonction des gens et on se potentialise les uns les autres. Et des fois, ça part en couille, mais c'est pas grave.
Mais c'est ça aussi le rock'n'roll. Même si tu n'aimes pas trop qu'on te classifie en groupe de rock, Skip the You, ce n'est pas qu'un groupe de rock. T'en as un petit peu marre que les médias mettent les groupes, les artistes dans des formats rock, rap. Vous ne faites pas que ça.
C'est plus ça, en fait. C'est plus une question de format. On a un groupe de potes, on fait de la musique, on se marre et on essaye de susciter la prise de position des gens sur des sujets qui sont des plus légers aux plus graves. On essaye d'être un contre-pouvoir. On essaye de montrer un autre prisme de la réalité à travers des chansons. Après, faire du rock, c'est être en dehors de la ligne jaune, c'est pas une musique.
C'est une attitude, c'est un esprit.
Non, c'est même pas. C'est être en dehors de la ligne jaune. Si tout le monde part là-bas, toi, tu montres un autre chemin. C'est ça, c'est juste ça. Enfin, je veux dire, c'est si tout le monde demain fait 4 accords de guitare, et ben, il faut faire autre chose. C'est proposer quelque chose de différent. Sinon, on sortirait un album de rap français.
Justement, je voulais faire le parallèle avec le rap. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Le rap a réussi à trouver son chemin et maintenant le rap est exposé à la télé, énormément à la radio, etc., etc. Et je trouve que le rock, alors que pourtant le rock est là depuis des décennies, je trouve que le rock en France a beaucoup plus de mal à être exposé. Est-ce que tu le ressens, toi, en tant qu'artiste rock?
Ou peut-être que tu trouves une amélioration, peut-être.
Non, mais je pense que c'est pas le problème du rock en France, en fait. C'est le problème de la France.
Oui, mais je sais. Je n'ai jamais dit que c'était le problème du rock. J'ai dit que je trouvais ça assez injuste.
Ce que je trouve dingue, il y a des choses qui sont... Ouais, il y a des choses qui sont un peu ouf, quoi. On a un des plus grands festivals de rock et de métal au monde, qui est le Hellfest, et on n'a même pas de victoire de la musique de rock.
Ouais, mais
dans le même pays, on a... on a un des plus gros groupes d'électro-rock du monde qui s'appelle Phoenix et qui cartonne partout, qui joue à Coachella partout dans le monde, tout le monde s'en branle. C'est ça le vrai truc. C'est alors pourquoi? Bah parce que c'est des questions politiques, c'est parce que et puis parce qu'on a voulu variétiser un peu le rap en disant aux jeunes faites des chansons d'amour, soyez de la télé-réalité de la musique, comme ça. Plus vous êtes teubé, plus on vous enfile. C'est ça le système. Parce que si tu commences
je vais en faire un t-shirt de cette phrase. Elle est merveilleuse.
Non, mais c'est exactement ça. Plus tu fais des chansons sur les pâquerettes, plus t'en as rien à foutre, plus on peut te faire faire ce que tu veux. Et le problème, c'est que plus t'es concerné, plus tu réfléchis, plus t'as des choses où tu te dis « Ah mais attends, mais moi je pense pas ça », plus tu suis pas l'algorithme et tu suis ce que t'as dans le cœur ou dans ta tête, bah, plus tu déranges. C'est aujourd'hui. Mais c'était la position du rap avant. Hein, dans les années.
Dans les années 90.
Même dans les années 2014. Moi, il n'y avait que du rock à la radio. Je trouvais, j'étais très content. Mais mes potes qui faisaient du rap, je ne trouvais pas ça cool pour eux. Et quand je te parle de ligne jaune, d'être en dehors de la ligne jaune, il y a rap et rap. Peut-être que vous êtes allé voir. Allez voir Aurel San sur scène. Vous allez voir qu'il est en dehors de la ligne jaune du rap. Et c'est pour ça que il est rock'n'roll quand il fait son show, Aurel. Et c'est ça que je veux dire. Être rock, c'est juste être en dehors de la ligne jaune.
Bah, le rock, en termes d'esprit, ça se ressemble énormément.
On vient tous du même endroit. On a tous quelque chose à dire.
Et c'est de la revendication.
Je pense que l'odeur de l'essence, ça parle à tous les jeunes de France. Plus qu'une énième chanson sur... la meuf qui m'a quitté ou le mec qui est baraque ou que sais-je, tu vois.
Si je ne dis pas de bêtises, vous avez quand même fait des premières parties plus que canon, notamment de Trust et de Rage Against the Machine.
Ouais.
Ça fait quoi? C'est stressant, c'est excitant, c'est les deux à la fois?
Non, c'est on a appris beaucoup en fait. C'est juste ça. Donc, pour Trust, c'est le premier groupe qui nous a emmenés en tournée. C'était nos premières tournées. Et ils nous ont appris, en fait, le métier, comment ça marche. Et puis Rage, c'était pareil au début du projet. Et c'était marrant parce qu'à ce concert-là, alors, petite anecdote, à ce concert-là, ce festival-là, on n'était pas tout seul avec Rage, il y avait plein de groupes. Et nous, c'était le tout début du projet. On était au Portugal avec Rage Against the Machine. Et donc, tu avais Rage qui avait une scène énorme dans un festival et tout. Et puis nous, on était dans un autre endroit avec plein de groupes. Et on était tous les groupes ensemble, tu vois, dans la loge, parce que c'était tous nos premières tournées, tu vois, c'était le début, et on était tous vachement impressionnés qu'il y ait Rage Against the Machine. Et je me souviens, on était dans une loge, il y avait 4 autres groupes, il y avait Peaches, MGMT, Vampire Weekend, et on était tous là à faire notre première tournée, on était tous autour d'une table à se dire, et puis le temps d'un été, MGMT explosé, Vampire Weekend, c'était trop rigolo d'être tous se retrouver dans cette scène-là. Je me souviens, MGMT qui prenait des photos de tous, la première fois qu'ils venaient en Europe, et on était tous là à dire, putain, on va jouer avec Rage Against the Machine.
Et, après, et vous avez tous explosé en même temps.
Et chacun a fait sa vie après. Et c'est ça la réalité en fait que j'aime dans la musique. C'est qu'on était tous là pour apprendre et on a tous pris plein la gueule. Le concert de Rez, il était incroyable. C'était vraiment des moments où d'un regard, Zach de la Roca, il peut retourner 50 000 personnes. Enfin, des choses, voilà, ça s'explique pas, ça se vit en fait.
Si vous deviez refaire une première partie, votre première partie de rêve d'un artiste, d'un groupe, ça serait qui?
Ah, je sais pas, Ilzo.
Vous avez le droit de citer quelqu'un qui n'est plus de ce monde.
Il y en a plein en fait.
Réalité virtuelle, on peut tout faire maintenant.
C'est vrai, ouais.
Juste ne citez pas Jean-Luc Ley.
Dommage, parce que Jean-Luc, j'allais. Non, mais on ne cite pas Jean-Luc Ley, on ne cite pas Noël Le Graët.
Oui,
on va éviter.
Et on ne cite pas Pierre Ménès. Donc, du coup. Non, mais je ne sais pas. En fait, je sais.
C'est
compliqué. Moi. Nirvana, c'est génial. Bowie, c'est génial. Tout est Green Day, c'est génial.
Michel Sardou.
Michel, c'est génial. Non, mais moi j'adore Charlotte de Witteux, j'adore ce qu'elle fait en techno, tu vois, ça n'a rien à voir, mais je suis ultra fan de ce qu'elle fait avec son label Contexte à travers le monde. Et je trouve ça tellement génial d'être une bande de potes, de monter un label, de monter un festival et de réussir à faire venir 30 000 personnes partout dans le monde. Je trouve ça ouf, en fait. Et donc, je me dis, j'ai envie de participer à ça. Moi aussi, je veux faire ça avec mes potes. Mais notre première partie, en ce moment, c'est Dead Homies, le groupe de Enzo. Donc, je vais choisir Dead Homies. Comme ça, c'est près de la réalité.
Tu veux inverser le...
Pourquoi
pas.
Faites ça en Radiant ou à Clermont.
Voilà, inverser.
Et tu parles d'un groupe de première partie à un lieu où vous voudriez aller. Je crois que c'est l'Amérique du Sud, non? Un endroit où il y a pas mal de fans.
On marche bien en Amérique du Sud alors qu'on n'est jamais allé. Donc du coup, on aimerait bien voir comment c'est là-bas.
Curiosité.
Après, moi j'avoue que ça fait quelques années que je suis à Los Angeles. J'aimerais bien aller tourner un peu dans le coin. Ça me ferait bien triper. En vrai, on aimerait bien aller partout. Sans, on n'a pas de. Parce qu'à chaque endroit, c'est une expérience, en fait. On est parti à Toronto, on est revenu à chaque fois avec une expérience, tu vois. Et c'est hyper important. Et c'est génial de retourner en France après, tu vois, d'avoir. C'est important, je trouve, de partir pour revenir et de se rendre compte des trucs géniaux qu'il y a ici, tu vois, et des trucs à parfaire, d'avoir cette expérience. Et de ne pas rester un peu ethnocentré comme ça, de voyager. Quand on peut voyager avec sa musique, c'est un vrai luxe.
On imagine que ça inspire aussi tous ces voyages pour l'écriture de textes, pour l'écriture des chansons. J'imagine que voilà, ça...
On a un magazine
plein de souvenirs, de pensées, de réflexions.
Les voyages, les collaborations, les rencontres. C'est sûr qu'à travers nos métiers, même de producteurs, on rencontre plein d'artistes, plein d'autres musiciens et qui nous nourrissent aussi, tu vois. Donc, carrément, c'est clair.
On va refermer ce petit moment de radio avec Skip the Use, avec l'interview première fois. Elle marche toujours, elle est toujours aussi efficace. Vous participez tous les deux.
OK.
Le premier disque acheté.
The Number of the Beast, Iron Maiden.
Moi, j'avais Ozone sur ma feuille.
J'ai jamais acheté de disque.
Jamais?
Non.
Oh la claque! Il est trop jeune pour avoir acheté un disque. Même pas un single?
Un CD de titre.
Un single? Pas encore moins.
CD de titre, ça existe plus, c'est vrai.
Je suis tellement yeuvre.
Ouais.
C'est hallucinant. Moi, c'était Garoussel.
Ah merde.
Non, je déconne.
Non, mais si, c'est pas grave. C'est pas grave.
Moi, c'était fan de Pascal Obispo, alors tu sais. C'est pas ouf non plus. Hein.
Tu sors de ce studio.
Allez, je m'en vais.
Non, je rigole. On adore Pascal Obispo ici sur Radio Scoop, bien entendu. Le premier concert en tant que spectateur.
Marcel et son orchestre.
Son père dans un café avec son groupe de.
Ah ouais, c'est vrai.
Et donc Marcel et son orchestre.
Marcel et son orchestre.
D'accord.
C'est son père qui fait le son.
C'est mon père qui fait le son.
En fait, finalement, il y a son père dans l'histoire.
D'accord. Quoi qu'il arrive.
Dans tous les cas. Dans tous les cas.
Il est partout.
Le premier concert de Skip the Use, le premier concert marquant, vraiment celui où vous êtes dit waouh.
Ce fameux concert avec The Rage Against the Machine, parce que à l'époque on avait que 4 morceaux, donc on a mitonné et on a complété le show avec des titres de notre groupe d'avant, Carving, qui était du punk hardcore, donc c'était pas vraiment la même chose, mais on a réussi à constituer une sorte de fausse playlist comme ça, voilà. Bon, en même temps, se dire, de toute façon, on s'en fout, personne ne nous connaît. voilà. Donc, c'était un peu.
C'est énorme. Il entend nous dire qu'il est mitonné. On va appeler Rage Against the Machine, tu vois. Ça va te faire tout drôle.
Voilà, on a un petit mail.
J'ai leur caramel, là, en plus.
On avait participé à un concours pour jouer avec Rage. Hein. Il fallait envoyer 3 titres. On n'avait que 3 titres. Bon, on a gagné le concours, mais on n'avait pas fait d'autres titres.
Et enfin, la première cuite. La première cuite mémorable.
Tu bois pas d'alcool.
Non plus.
Donc, c'est vrai.
Non. Donc j'ai.
Et c'est pas du tout rock'n'roll ça. Hein.
Non, rock'n'roll.
Vous êtes en mode verveine et tout quoi.
Non.
Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? C'est prendre un autre chemin.
Ce qui est rock'n'roll, c'est de. Non, mais on a été en prison pour nos idées. C'est beaucoup plus rock'n'roll que ce
que tu dis. Ah oui, en effet. C'est mieux que de boire une suze. Oui, je confirme.
C'est un peu plus, engageant.
À consommer avec modération, bien entendu. Merci beaucoup. Skip the Use.
Merci à vous.
On le rappelle, hein, Skip the Use en tournée partout en France et notamment dans la région pour présenter l'album Human Disorder le 26 janvier à Clermont-Ferrand à la coopérative de mai et 2 jours plus tard du côté du Radiant à Caluire juste à côté de Lyon. Merci beaucoup d'être venu ici dans 18h20 sur Radio Scoop, ça nous a fait plaisir. Et Skip the Use, vous savez quoi, cette émission est bien faite, on les écoute maintenant avec Ghost sur Radio Scoop.